Chapitre 6 Les voies de la grâce pour répondre aux besoins. Le chapitre 5 présente Christ comme le Fils de Dieu donnant la vie à qui il veut. Le chapitre 6 place devant nous Christ comme le Fils de l'homme donnant la vie à ceux qui le reçoivent et comme le soutien de la vie qu'il donne. La première partie du chapitre, versets 1 à 21, donne le récit de deux incidents qui servent d'illustration au grand thème du discours du Seigneur rapporté dans la seconde partie. Dans la première scène, Christ agit comme roi, fournissant dans sa libéralité royale du pain pour le maintien de la vie naturelle. La seconde scène montre Christ en image comme sacrificateur en haut, soutenant les siens et nourrissant leur vie spirituelle, tandis qu'ils traversent un monde où tout est contre eux. Dans le discours qui suit, le Seigneur développe de grandes vérités qui comprennent son incarnation, versets 32 à 50, son œuvre, versets 51 à 56, sa résurrection, versets 57, et son ascension, versets 62. Il est présenté ainsi afin que tous ceux qui croient en lui vivent et que cette vie nouvelle qu'ils ont soit nourrie pour la satisfaction de tout besoin spirituel. Versets 1 à 14 Les 5000 hommes nourris. Citation de l'Écriture. Après ces choses, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, qui est la mer de Tibérias. Et une grande foule le suivit, parce qu'il voyait les miracles qu'il faisait sur ceux qui étaient malades. Et Jésus monta sur la montagne et s'assit là avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus donc, ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippe, « D'où achèterons-nous des pains, afin que ceux-ci mangent ?» Mais il disait cela pour l'éprouver, car lui savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Pour 200 deniers de pain ne leur suffirait pas, pour que chacun en reçût quelque peu. » L'un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Et Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Or, il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu-là. Les hommes donc s'assirent au nombre d'environ 5000. Et Jésus prit les pains et, ayant rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis, de même aussi des poissons, autant qu'ils en voulaient. Et après qu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Amassez les morceaux qui sont de reste, afin que rien ne soit perdu. » Ils les amassèrent donc et remplirent 12 paniers des morceaux qui étaient de reste des 5 pains d'orge lorsqu'ils eurent mangé. Les hommes donc, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est véritablement le prophète qui vient dans le monde. » Fin de citation. Ce nouveau signe est un témoignage à l'intervention de Dieu en faveur de l'homme selon le psaume 132, verset 15. « Je bénirai abondamment ses vivres, je rassasirai de pain ses pauvres. » Il présente ainsi le grand thème du chapitre, Christ pour la satisfaction du cœur des siens. Au chapitre 4, Christ délivre de la puissance du péché. Au chapitre 5, il délivre de l'esclavage de la loi. Et au chapitre 6, il délivre des besoins. Une grande foule se trouve rassemblée sur une montagne déserte et a besoin de nourriture. En ce qui concernait la puissance humaine, il était impossible de répondre à ce besoin. Mais le Seigneur est présent et il y pourvoira. Toutefois, avant de le faire, il se sert de la difficulté afin d'éprouver la foi de ses propres disciples. Ont-ils la foi pour utiliser les ressources du Seigneur lorsque, de leur côté, tout espoir a disparu? Ainsi, le Seigneur dit à Philippe, « D'où achèterons-nous des pains afin que ceux-ci mangent ?» Puis il est ajouté, « Il disait cela pour l'éprouver car lui savait ce qu'il allait faire. » Pouvons-nous douter qu'il en est aujourd'hui comme il en était alors? Il est permis que des difficultés, humainement tout à fait insurmontables, surgissent parmi les enfants de Dieu afin de nous éprouver. Nous professons suivre le Seigneur, confessant que sans lui nous ne pouvons rien faire, mais que sa grâce est suffisante. Notre profession est alors mise à l'épreuve par une difficulté que nous ne pouvons pas surmonter. Toutefois, il nous est dit que lui savait ce qu'il allait faire. Ses paroles nous garantissent qu'aucune difficulté qu'il ne puisse résoudre ne surgira jamais sur notre chemin individuel ou parmi les enfants de Dieu. Dans les derniers jours difficiles, les docteurs et les conducteurs peuvent nous faire défaut, mais au jour le plus sombre et en présence de la plus grande difficulté, il y a quelqu'un vers qui nous pouvons nous tourner avec l'assurance qu'il sait ce qu'il va faire. Trop souvent, le trouble a sa source dans notre lenteur à reconnaître le fait humiliant que nous ne savons pas que faire. Chacun de nous estime savoir et est persuadé que tout irait bien si seulement les autres agissaient selon nos suggestions. Et ainsi, nous ne pensons pas à nous adresser à celui qui sait. Comme dans le cas des disciples, les difficultés mettent en évidence la pauvreté de notre foi, tout en révélant en même temps la grandeur des ressources dans le Seigneur. Pour répondre à la situation, Philippe ne voit rien d'autre que le pouvoir de l'argent. Il doit toutefois admettre que son plan assurerait seulement quelque peu de nourriture à la foule. Quelle différence avec le Seigneur qui, lorsqu'il agit, donne autant qu'ils en voulaient. Tandis que Philippe mentionne la grande quantité qu'il faudrait, André se lamente sur le très peu dont il dispose. Ni l'un ni l'autre de ses disciples ne pense au Seigneur et aux vastes ressources en lui qui sont à la disposition de la foi. Après la manifestation du manque de foi des disciples, le Seigneur lui-même révèle la grâce de son cœur et la puissance de sa main pour répondre à la difficulté. Quelle bénédiction pour eux, comme pour nous, que la défaillance des siens ne retienne pas la main du Seigneur d'agir en leur faveur. La scène qui suit est certainement un avant-goût de la bénédiction millénaire, présentant l'administration parfaite du Seigneur et sa puissance pour calmer l'agitation du monde et satisfaire sa faim terrible. À sa parole, 5000 hommes connaissent en un moment un repos parfait. Il parle, et aussitôt nous lisons, « Les hommes s'assirent. » Il en sera ainsi au jour de l'Éternel. J'ôterai du pays en les brisant l'arc et l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Osée 2, verset 18. De plus, la scène ne manifeste pas seulement la gloire de sa personne, mais révèle la perfection de sa manière d'agir. Nous lisons « Jésus prit les pains, les 5 pains d'orge, et ayant rendu grâce, il nourrit la foule. Il se sert des ressources naturelles de la terre en relation avec le Dieu qui les avait données, reconnaissant que les cieux sont la source réelle de toute bénédiction pour l'homme. Quand la puissance de Christ met les ressources terrestres, si petites soient-elles, en relation avec les ressources inépuisables des cieux, le très peu de choses va loin. Au jour du prophète, Dieu a pu se servir d'une veuve n'ayant rien qu'une poignée de farine et d'un peu d'huile dans une cruche pour faire vivre une famille pendant une année entière. 1 Rois 17, versets 15 et 16. De même, Christ peut employer un petit garçon en possession de 5 pains d'orge et de 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. En outre, le Seigneur distribue les ressources vitales avec une telle perfection que tous les besoins sont comblés. Le luxe insolent et l'extrême pauvreté, le gaspillage extravagant et le besoin désespéré n'existeront plus quand le Seigneur aura sa place légitime comme juge de toute la terre. Les hommes essaient de répartir les richesses du monde en attaquant les riches. Ils montrent seulement par là que la puissance humaine est destruction et non pas administration. L'homme peut appauvrir le riche, mais il ne peut pas enrichir le pauvre. Il peut détruire l'ordre présent. Il ne peut pas introduire la bénédiction millénaire. Lorsque Christ dispense la bénédiction, les hommes reçoivent autant qu'ils en veulent et, même ainsi, quand tous sont rassasiés, il reste un surplus. Maintenant, la demande dépasse les ressources. Alors la grâce de Dieu répondra pleinement aux besoins de l'homme, mais ceux-ci n'épuiseront jamais la grâce de Dieu. Versets 15 à 21. Christ sur la montagne et les disciples sur la mer. Citation de l'Écriture. Jésus donc, sachant qu'ils allaient venir et l'enlever afin de le faire roi, se retira encore sur la montagne, lui tout seul. Et quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer. Et étant montés sur une nacelle, ils allèrent de l'autre côté de la mer à Capernaum. Et il faisait déjà nuit, et Jésus n'était pas venu à eux. Et la mer s'élevait par un grand vent qui soufflait. Ayant donc ramé environ 25 ou 30 stades, ils voient Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la nacelle. Et ils furent saisis de peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez point de peur. » Ils étaient donc tout disposés à le recevoir dans la nacelle. Et aussitôt la nacelle prit terre au lieu où ils allaient. Fin de citation. Frappés par le miracle de la multiplication des pains pour nourrir les 5 000, les hommes confessent Christ comme le prophète annoncé par Moïse, qui, tel ce dernier, viendrait de Dieu vers le peuple pour répondre à leurs besoins et les introduire dans la bénédiction promise. Deutéronome 18, versets 15 à 19. Ils sont tout prêts à faire roi celui qui exerçait une telle puissance. Ainsi, il serait leur libérateur des Romains haïs. Le temps de régner n'était pas encore venu. Aussi, refusant d'être fait roi, Christ se retira sur la montagne, lui tout seul, pour exercer là son office actuel de sacrificateur. Restés seuls, les disciples montent sur un bateau pour traverser la mer agitée par un grand vent qui soufflait, au milieu de l'obscurité grandissante. Une image vraie de ceux qui appartiennent à Christ, laissés dans un monde de ténèbres pendant son absence, en but à l'opposition du méchant qui, comme la mer, ne peut se reposer. Néanmoins, les disciples sont soutenus par Christ, qui vient à eux dans leur terrible détresse. Cet office sacerdotal de Christ s'exerce maintenant en faveur de l'Église, et il continuera à être exercé à l'égard du résidu pieux des Juifs quand il traversera la grande tribulation. C'est probablement à ces croyants juifs que cette scène se réfère plus particulièrement. Elle complète ainsi l'enseignement donné par le premier incident en montrant que la bénédiction du royaume ne sera obtenue qu'au travers de la grande tribulation. Quand le résidu juif sera exposé aux activités terribles de Satan, au temps de l'épreuve, il expérimentera la grâce secourable du Seigneur comme souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Enfin, lorsque la tempête de la persécution atteindra son point culminant et que la condition des fidèles sera pratiquement désespérée, le Seigneur apparaîtra en leur faveur et manifestera une puissance supérieure à celle de l'ennemi, montrée en image par Jésus marchant sur la mer. En présence d'une telle manifestation de puissance, les disciples sont tout disposés à le recevoir dans la nacelle. Ainsi, nous lisons concernant le jour encore futur, « Ton peuple sera un peuple de franche volonté au jour de ta puissance. » Psaume 110, versets 3 et 4. Lorsque leurs épreuves auront produit l'humiliation, les Juifs recevront avec foi celui qu'ils ont rejeté par incrédulité au temps de leur orgueil. Quand Christ est reçu dans le bateau, les disciples parviennent au lieu où ils allaient. De même, Israël parviendra à la bénédiction sous le règne de Christ. Versets 22 à 71. Le discours du Seigneur à Capernaum. Citation de l'Écriture. Le lendemain, la foule qui était de l'autre côté de la mer, voyant qu'il n'y avait point là d'autre petite nacelle que celle-là sur laquelle ses disciples étaient montés, et que Jésus n'était pas entré avec ses disciples dans la nacelle, mais que ses disciples s'en étaient allés seuls, mais d'autres petites nacelles étaient venues de Tibérias, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Lors donc que la foule vit que Jésus n'était point là, ni ses disciples, ils montèrent eux-mêmes sur les nacelles, et vinrent à Capernaum, cherchant Jésus. Et l'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit et dit, « en vérité, je vous dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non point pour la viande qui périt, mais pour la viande qui demeure jusque dans la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu, a scellé. » Ils lui dirent donc, « Que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus répondit et leur dit, « C'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent donc, « Quel miracle fais-tu donc, toi, afin que nous le voyions et que nous te croyions? Quelle œuvre fais-tu ? » Nos pères ont mangé la manne au désert, ainsi qu'il est écrit, « Il leur a donné à manger du pain venant du ciel. » Jésus donc leur dit, « en vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent donc, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Et Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous ai dit qu'aussi vous m'avez vu, et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Car c'est ici la volonté de mon Père, que quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs donc murmuraient contre lui, parce qu'il avait dit, « Moi, je suis le pain descendu du ciel. » Et il disait, « N'est-ce pas ici Jésus, le fils de Joseph, duquel nous connaissons le père et la mère ? Comment donc celui-ci, dit-il, « je suis descendu du ciel ?» Jésus donc répondit et leur dit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, et ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et a appris de lui vient à moi. Non pas que quelqu'un ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne au désert et sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que quelqu'un en mange et ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Or, le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair, laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. » Les Juifs disputaient donc entre eux, disant, « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus donc leur dit, « en vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est en vérité un aliment, et mon sang est en vérité un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis à cause du Père, de même celui qui me mangera, celui-là aussi vivra à cause de moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, non pas comme les pères mangèrent et moururent. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. » Il dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs donc de ses disciples, l'ayant entendu, dirent, « Cette parole est dure, qui peut l'ouïr ?» Et Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient là-dessus, leur dit, « Ceci vous scandalise-t-il ? Si donc vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie, mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne croient pas. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Et il dit, « C'est pour cela que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, à moins qu'il ne lui soit donné du Père. » Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils ne marchaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, Et nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un d'entre vous est un diable ?» Or, il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui allait le livrer, lui qui était l'un des 12. Fin de citation. Les versets d'introduction au discours du Seigneur nous apprennent que le lendemain de la multiplication des pains, la foule qui avait été nourrie traversa la mer et vint à Capernaum pour chercher Jésus. Le Seigneur commence son discours en dénonçant les motifs qui poussaient la foule à le chercher. Ce n'était pas en raison d'un sentiment de besoin spirituel ou parce qu'ils avaient vu la gloire de sa personne telle qu'elle avait été manifestée par le miracle, mais parce qu'ils avaient mangé des pains et qu'ils avaient été rassasiés. Si Christ avait répondu aux besoins temporels des hommes sans soulever aucune question morale quant à leur état devant Dieu, ils l'auraient suivi avec bonheur. Hélas, au milieu des corruptions de la chrétienté, les mêmes motifs gouvernent les hommes qu'au temps du judaïsme corrompu. Il demeure vrai que les hommes cherchent Christ, non pas en raison des signes, mais à cause des pains et des poissons. Les hommes veulent bien écouter des sermons et entendre parler de Christ, tant qu'il est présenté uniquement comme celui qui peut améliorer l'état du monde et répondre à ses besoins temporels. Toutefois, si Christ est placé devant eux comme le signe de l'intervention de Dieu pour la bénédiction éternelle de l'homme, la masse n'éprouve alors aucun intérêt pour lui. De même, aussi, les hommes travailleront pour obtenir ce qui périt par l'usage, mais resteront indifférents à cette nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Le Fils de l'homme est venu pour donner la vie éternelle et remplir l'âme de satisfaction en nous délivrant de notre misère spirituelle. Verset 35. En outre, il est accordé de voir dans ce discours la gloire du Fils de l'homme, de même qu'au chapitre précédent, sa gloire comme Fils de Dieu a été placée devant nous. Ici, sa gloire caractéristique apparaît dans le grand fait que, comme Fils de l'homme, il est scellé du Saint-Esprit par Dieu le Père. Il est ainsi distingué de la race humaine entière comme étant la possession de Dieu et celui qui, en tant qu'homme, est l'objet de la pleine approbation du Père et de son plaisir infini. La déclaration du Seigneur avait clairement montré que ces hommes n'avaient aucun sentiment de la gloire de sa personne ni des besoins de leurs âmes. Maintenant, leurs propres paroles nous indiquent qu'ils n'avaient pas la moindre idée de leur faiblesse totale. Ils demandent avec une grande légèreté « Que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu ?» Ils partent du principe qu'ils sont tout à fait capables de faire tout ce que Dieu exige, pour autant qu'ils soient instruits quant à ses désirs. Dans quelles profondes ténèbres ne se trouvaient-ils pas? Ne connaissant ni leur propre impuissance ni la grâce de Dieu, ils considéraient Dieu comme quelqu'un qui exige de l'homme. Ils devaient encore apprendre que la grâce de Dieu ne réclame pas des œuvres pour l'obtention de la bénédiction, mais qu'elle demande seulement que l'homme croie en celui que Dieu a envoyé. Les œuvres suivraient la foi. Les hommes manifestent aussitôt leur incrédulité en demandant un miracle. Ils comprenaient parfaitement bien qu'un signe était la preuve de l'intervention de Dieu dans les affaires des hommes. Certes, ils avaient vu le Seigneur nourrir les 5000 hommes, mais ils raisonnent. Qu'est-ce, en comparaison de Moïse, qui a nourri l'immense multitude d'Israël pendant 40 ans dans le désert? Christ lui-même était le signe de l'intervention de Dieu en grâce, et les miracles qu'il faisait attestaient tout à fait clairement qu'une personne divine était présente en grâce dans cet homme humble. N'ayant aucune connaissance de leurs besoins, ignorant les Écritures et plein de leur propre suffisance, ils ne pouvaient pas voir le signe. Ils attendaient un Christ qui viendrait accompagné de manifestations extérieures en puissance contre leurs ennemis et d'une manière qui couvrirait Israël d'honneur. Au lieu de cela, Christ était venu dans l'humilité et son humiliation était pour eux une pierre d'achoppement. S'ils avaient été conscients de leurs besoins, ils auraient attendu la rédemption. Et ils auraient vu le signe. Il est évident que celui qui venait pour accomplir la rédemption par son sacrifice ne pouvait avoir aucune part à la gloire et aux honneurs de ce monde. Siméon et Anne attendaient la rédemption en Israël, et ils virent le signe. Luc 2, versets 34 et 38. Le Seigneur répond que ce n'était pas Moïse qui leur avait donné le pain qui vient du ciel. en commun avec le peuple, il n'avait fait que le recevoir. Puis le Seigneur présente trois grandes vérités qui le distinguent, comme homme, de Moïse et de tous les autres humains. Premièrement, la présence du Fils de l'homme était le signe de l'intervention du Père en amour au profit de l'homme. Dieu n'exigeait plus de l'homme en justice sous la loi, mais le Père donnait à l'homme en amour sous la grâce souveraine. Deuxièmement, le Seigneur présente la grande vérité de son incarnation. Il n'est pas simplement un homme suscité sur la terre, comme dans le cas de Moïse et des autres. Il est celui qui descend du ciel. Il est véritablement une personne divine, pourtant présent comme homme sur la terre, un homme selon un ordre entièrement nouveau, un homme céleste. Troisièmement, il est le pain de Dieu qui donne la vie au monde. Il ne s'agit plus de donner la vie à Israël pendant la traversée du désert. Christ, le pain de Dieu, est pour tous ceux qui ont besoin de lui. Ne pensant qu'à la vie naturelle, ces hommes disent « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là ». Sans aucune conscience de leurs besoins spirituels, ils ne discernaient pas sa gloire ni la signification de ses paroles. En réponse à leur demande, le Seigneur se présente comme le véritable pain et parle de la bénédiction de ceux qui venaient à lui. S'ils voulaient avoir du pain qui satisfasse leurs besoins pour toujours, qu'ils viennent à lui, le pain de vie. Comme pain de Dieu, il donne la vie et la satisfaction, et cette vie est à la disposition du monde. Ceux qui profitent du don de la vie, en venant à lui, découvriront qu'il s'agit d'une vie qui répond aux besoins de l'âme. Ils n'auront jamais faim et jamais soif. Hélas, l'homme laissé à lui-même rejette Christ quand il est présenté en incarnation, de même que plus tard, il le rejette dans sa mort, verset 52, et comme étant élevé, verset 66. Le Seigneur doit dire « Vous m'avez vu et vous ne croyez pas ». Si donc la bénédiction dépend de la responsabilité de l'homme, tout est perdu. Nul ne sera béni. Mais comme toujours, quand l'homme est totalement manifesté, Dieu revient au conseil de son propre cœur. Il ne permettra pas que tous périssent. Il ne permettra pas non plus que la venue du Fils de l'homme ne serve à rien. Il y a ceux que le Père s'est proposé de donner au Fils, et comme le Seigneur peut le dire, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Parce que le Père les donne, le Fils les recevra. Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Quelle que soit leur nationalité ou leur caractère, qu'ils soient juifs ou gentils, des femmes déchues ou des brigands endurcis, des pharisiens ou des publicains, si seulement ils viennent à Christ, ils seront reçus, car leur venue est la preuve qu'ils sont le don du Père au Fils. En outre, le fait que le Seigneur recevait tout ce que le Père envoyait prouvait qu'il était là pour faire la volonté du Père. D'une façon très bénie, le Seigneur se présente comme celui qui est descendu du ciel, non pour faire sa volonté, mais afin d'être le serviteur venu pour accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. La volonté du Père est confiée à celui qui est capable de l'accomplir. La volonté d'une personne divine ne peut être exécutée pleinement que par une personne divine. Aussi, dans ces versets, avons-nous le Père et le Fils. Le Père conçoit ses conseils de grâce. Le Fils les met à exécution. La volonté du Père est présentée sous un double aspect. Premièrement, elle est vue en ce qui concerne le Fils. La volonté du Père est que ceux qui sont donnés au Fils soient gardés sûrement par le Fils et qu'il les ressuscite tous au dernier jour. Quelle garantie bénie l'accomplissement de la volonté du Père par le Fils ne donne-t-elle pas à tous ceux qui viennent à Christ de leur entière délivrance de toute la puissance du mal et de leur entrée finale dans la pleine bénédiction au dernier jour. Je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné. Ce jour-là, tout ce qui a été connu par la foi sera manifesté. Parce que les enfants de Dieu meurent et tombent dans l'oubli, génération après génération, il pourrait sembler qu'ils sont oubliés de Dieu. Les paroles du Seigneur nous assurent que tel n'est pas le cas. Pas un d'entre eux n'est perdu ni oublié. Ils réapparaîtront au dernier jour. La puissance en résurrection exercée par le Seigneur sera la preuve finale qu'il n'a rien perdu. Le dernier jour se rapporte à la fin du temps présent, lorsque Christ viendra pour régner et qu'il ressuscitera ceux que le Père lui a donnés, afin qu'ils aient part avec lui à la joie et à la satisfaction céleste du royaume. Alors seront réalisées dans toute leur plénitude les paroles du Seigneur, selon lesquelles celui qui vient à lui n'aura jamais faim et jamais soif. Deuxièmement, la volonté du Père est présentée en relation avec la responsabilité de l'homme. C'est la volonté du Père que le Fils soit présenté à tous, que quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, une vie dans la plénitude de laquelle on entrera par la résurrection au dernier jour. Jugeant d'après les apparences et raisonnant selon la nature, les Juifs ne peuvent pas accepter le fait que quelqu'un soit descendu du ciel. Cela demeure la difficulté. L'homme naturel peut comprendre la généalogie de Christ selon la chair, mais il rejette la grande vérité qu'il est une personne divine, venue en chair et, par conséquent, beaucoup plus que le fils de Joseph sur le plan légal ou le vrai fils de Marie. L'aveuglement et l'incrédulité de l'homme ne font que prouver la nécessité d'une œuvre de grâce pour pouvoir venir à Christ. Tous sont libres de venir, mais laissé à lui-même, l'homme ne viendra pas. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui cherche Dieu. Aussi le Seigneur montre-t-il clairement que les hommes ne peuvent pas être bénis autrement que par la grâce souveraine. Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire. En outre, c'est par l'enseignement divin que le Père tire quelqu'un, selon les paroles, « Ils seront tous enseignés de Dieu ». Il éclaire l'âme, convainquant du besoin de Christ d'une part et révélant la gloire de Christ d'autre part. Ainsi, l'âme est poussée par le besoin à Christ et tirée à lui par la grâce. Le Seigneur protège la vérité contre toute pensée matérielle. Être enseigné de Dieu n'implique pas que quelqu'un ait vu le Père. L'enseignement est d'un caractère spirituel. Le Seigneur se met à résumer la vérité en relation avec son incarnation. Celui qui est tiré par le Père croit en Christ comme descendu du ciel et à la vie éternelle. La manne dans le désert entretenait la vie naturelle. La vie que Christ donne ne peut pas être atteinte par la mort. À partir de ce point de son discours, le Seigneur introduit sa mort. Aussi dit-il, « Le pain que moi je donnerai, c'est ma chair. » Le Seigneur parle non seulement de manger sa chair, mais aussi de boire son sang. Il doit mourir afin d'assurer sa semence. Les Juifs avaient déjà murmuré contre lui au sujet de son incarnation. Maintenant, ils disputent entre eux concernant sa mort. Chaque nouvelle vérité montre plus évidemment l'incapacité totale de l'esprit naturel de comprendre les choses divines. Ils disent « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Ils rejettent les paroles du Seigneur parce qu'elles ne font pas appel à la raison humaine. Les vérités divines ne peuvent être reçues que par la grâce opérant par la foi. Aussi, le Seigneur ne donne-t-il pas de réponse à leur comment, mais il affirme la vérité en des termes encore plus forts. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Dans l'incarnation que la mort de Christ sont présentés comme les objets et les tests de la foi. Quelqu'un a dit « Ceux qui reçoivent l'incarnation par la foi reçoivent aussi sa mort avec la même foi, et ceux-là seuls ont la vie éternelle. » Les hommes peuvent certes professer, admirer et imiter la vie parfaite du Seigneur, à la manière humaine, mais ces personnes ne croient pas à son incarnation, qu'il est descendu du ciel, et elles rejetteront également sa mort expiatoire. Il n'y a pas de vie pour Dieu en l'homme déchu. Il est vivant dans le péché, mais mort à Dieu. Sa nature mauvaise le sépare de Dieu. Pour le croyant, la mort de Christ met fin au règne du péché. Il s'approprie la mort de Christ comme étant la sienne, et ainsi il est délivré de la puissance du péché et vit à Dieu. Deux vérités distinctes sont présentées dans les versets 53 et 54. Premièrement, Le fait de manger pour la réception de la vie, au verset 53, avec la pensée d'un acte accompli. Secondement, le fait de manger pour le maintien de la vie, au verset 54, où l'acte de manger est présenté comme étant continu. Dans ces versets, le Seigneur développe la bénédiction de cette vie nouvelle. Premièrement, il s'agit d'une vie dans laquelle le croyant est identifié avec Christ. De celui qui se nourrit de sa mort, le Seigneur peut dire qu'il demeure en moi et moi en lui. Le croyant est identifié avec Christ devant Dieu, et la vie de Christ est représentée dans le croyant devant les hommes. Deuxièmement, c'est une vie qui a Christ pour objet. Le Seigneur peut dire « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi, je vis à cause du Père, de même, celui qui me mangera, celui-là aussi vivra à cause de moi. » Cela nous transporte au-delà de la mort et implique un Christ vivant en résurrection, objet de la vie du croyant. Le Seigneur a vécu ici-bas une vie dans laquelle il cherchait non pas sa propre volonté, ni sa propre gloire, mais la volonté et la gloire de celui qui l'avait envoyé. Une vie dans laquelle il faisait toujours les choses qui plaisaient au Père. Chapitre 5, verset 30, chapitre 7, verset 18, chapitre 8, verset 29. Il a vécu chaque moment de cette vie de perfection entièrement à cause du Père. De même, le chrétien vivant dans la puissance de cette vie nouvelle vivra pour la gloire et la volonté et le plaisir de Christ. Troisièmement, cette vie n'est pas touchée par l'ombre de la mort. La vie naturelle, entretenue par des aliments naturels, prend fin par la mort. La mort ne peut pas mettre fin à la vie nourrie par Christ et qui a Christ pour objet. Le discours du Seigneur avait manifesté l'incrédulité de la foule, au verset 36. L'incrédulité des Juifs, versets 41, 42 et 52. Et enfin, l'incrédulité des disciples. Toutefois, s'ils trouvaient difficile de croire en l'incarnation et en la mort de Christ, ils seraient encore bien plus scandalisés de voir celui qui allait mourir monter dans la gloire. L'homme naturel, et même la chair dans les disciples, ne peuvent pas s'élever au-dessus de la terre et des bénédictions matérielles. L'homme ne peut pas accepter un Christ descendant du ciel et devenant chair. Un Christ entrant dans la mort blesse son orgueil. Un Christ montant au ciel dépasse totalement sa compréhension. Toutes ces grandes vérités sont liées ensemble. Refusez-en une, et toutes sont perdues. La foi en l'une prépare l'âme à les recevoir toutes. L'incrédulité de la chair prouve seulement que celle-ci ne profite de rien. Il se peut qu'elle soit hautement cultivée, comme dans le cas de Nicodème ou d'un Saul de Tarse, mais même ainsi, elle est tout à fait incapable de recevoir les choses de Dieu. C'est l'Esprit qui vivifie, par Christ et ses paroles, lesquelles participent du caractère de l'Esprit. Elles sont spirituelles, et là où l'Esprit opère, elles sont vie. Quelques-uns professaient être les disciples de Jésus, mais ils ne croyaient pas. Les hommes pouvaient certes le suivre en foule à cause des avantages matériels, mais nul ne venait réellement à Christ à moins qu'il ne lui soit donné du Père. Le Père tire, verset 44. Le Fils parle, verset 63. Et l'Esprit vivifie en appliquant ses paroles en puissance à l'âme. La chair ayant été exposée dans son incrédulité, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ne marchèrent plus avec lui. La foule, les Juifs et les disciples ont tous montré la vérité des paroles du Seigneur. La chair ne profite de rien. Il reste un cercle, les 12, et le Seigneur demande « Voulez-vous aussi vous en aller ?» Pierre répond d'une manière très belle « Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous, nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu. » Le discours du Seigneur a mis en évidence l'incrédulité de la chair, mais il a aussi confirmé la foi de vrais croyants. Si ceux-ci le quittaient, ils pourraient encore trouver une profession religieuse, les aises et l'honneur dans le monde. Mais ils abandonneraient pour toujours la vie éternelle, et toutes les bénédictions célestes et éternelles auxquelles elle doit mener. Pourtant, malgré tout, l'appartenance aux 12 ne constituerait pas un surfondement sur lequel bâtir, car dans ce cercle, le plus proche du Seigneur et par conséquent le plus privilégié, la méchanceté de la chair atteindrait son point culminant. L'un d'entre eux était tellement sous la puissance du diable que le Seigneur peut dire de lui qu'il est un diable. Le moment venu, sa trahison du Seigneur le manifesterait comme tel.